Chapitre 3. Sir George, ainsi que quelques autres personnes, allaient habituellement passer la soirée chez Clémentia jusqu'à 9 heures, heure à laquelle Dongal lui offrait son bras pour la conduire chez sa tante. Sir George était toujours le premier arrivé, ce qui lui procurait le plaisir de passer avec Clémentia quelques moments, rempli pour lui d'un attrait inappréciable. La candeur et la gaieté si naturelle de Clémentia semblaient, en effet, fondre la glace dont la vie factice et dissipée du monde avait, pour ainsi dire, enveloppé le cœur de Percy. Le naturel, la sincérité de Clémentia entraînait Sir George à se dépouiller devant elle de l'affectation devenue chez lui une seconde nature. Il sentait et comprenait tout le prix de cette franchise qui rend si agréable la société espagnole. Aussi, près de Clémentia, Sir George redevenait jeune, gai, presque enfant. Il riait avec elle d'un rire franc qui, depuis longtemps, lui était inconnu, écoutait avec l'intérêt le plus vif les moindres détails de sa vie passée et connaissait de Villa Maria tout ce qu'elle y avait aimé, depuis son oncle jusqu'à ses fleurs et ses oiseaux. « Oh !» lui disait-il souvent, « vous êtes naturellement poète, qui donc vous a fait ce que vous êtes ?»« Je ne sais, Sir George, » répondait Clémentia, « je puis seulement dire avec le poète d'Orient, je ne suis pas la rose, mais j'ai vécu près d'elle. » Clémentia se sentait donc subjuguée par les aimables et brillantes qualités de Sir George, car l'esprit, a-t-on dit avec raison, agit bien plus fortement sur les natures d'élite que sur les natures vulgaires. Cependant, lorsque Percy n'était plus là, le charme s'évanouissait et Clémentia sentait, au fond de son cœur, un sentiment pénible. Il manquait, à l'organisation brillante de Sir George, cette chaleur et cette expansion qui, seule, inspire l'estime et attire la confiance. Du moment où quelqu'un entrait, Sir George n'était plus le même. L'homme qui, tout à l'heure, charmé par sa grâce et son esprit, repoussé presque par sa raideur et par la morgue si naturelle aux Anglais, qui croient toujours s'élever en rabaissant les autres. Il devenait alors ironique, mordant, dénigrant ce qui intéressait tout le monde, plein d'enthousiasme pour ceux qui n'intéressaient personne. Il n'avait aucune admiration pour la cathédrale, l'Alcazar, les tableaux de Murillo, mais il se pâmait devant les étalages des marchands d'eau à la glace. Un soir, la conversation entre Clémentia et Sir George était vive, pleine d'entrain et animée par un désir mutuel de plaire. L'amour semblait n'y jouer aucun rôle. On y devinait pourtant sa présence, comme on entend, dans un jardin, les doux accords d'une musique cachée. Clémentia ignorait encore ce qui se passait en elle. Sir George commençait à le découvrir. Clémentia, dit Sir George avec enthousiasme, entre l'enfant qui nous charme, la fée qui nous séduit, se trouve la femme qu'on aime. Voudriez-vous être l'enfant, la fée ou la femme ?
Il n'est qu'un homme au monde dont je voudrais être aimée.
Quel est cet homme ?
Celui que j'aimerais.
Vous êtes la seule à penser ainsi.
Cela vous paraît-il original ? Dit Clémentia en reprenant le ton enjoué. Après tout, comme dit un des proverbes favoris de mon beau-père, la fortune n'est pas pour celui qui la cherche, mais pour celui qui la trouve.
Et vous avez fait vœu de ne jamais aimer, Clémentia.
Non, milord, mais l'amour ne se commande pas.
Pour des natures douces et soumises comme la vôtre, je crois que si.
Plût à Dieu que ce fût vrai,
dit en soupirant Clémentia, qui pensait à Paul. Au moment où Sir George, qui donnait un tout autre sens à ses paroles, allait répondre, la porte s'ouvrit et le vicomte entra. Sir George, comme d'habitude, le salua d'un air glacial. Un regard suppliant de Clémentia sembla calmer sa froideur. Il se renferma dans un silence hautain pour faire comprendre au vicomte combien sa présence lui était importune. Il manquait ainsi à la réserve qu'il s'était prescrite à l'égard de son rival, mais cette fois, l'indomptable morgue britannique revêtit son écorce la plus rude. Le vicomte s'en aperçut et comprit la cause de ce manque d'égard.
Si la conversation de Sir George était spirituelle, incisive, piquante, celle du vicomte était gracieuse, intéressante, souvent profonde et élevée, toujours agréable. Le vicomte aborda différents sujets, captivant, absorbant l'attention de Clémentia, qui l'écoutait dans le ravissement. Sir George ne prit aucune part à la conversation, et comme il arrive souvent à celui qui se renferme dans le silence, il commença à se faire oublier. « Allons, se dit-il avec dépit, mon rôle devient passablement ridicule. Il faut partir. » Heureusement pour lui, Don Gallo entra en ce moment. « À vos pieds, Clémentia, seigneur vicomte, je vous baise les mains. Don Georges, votre serviteur, il fait un froid du pôle. »« Du pôle nord ou du pôle sud ?» demanda Sir George, heureux d'avoir trouvé l'occasion de placer un mot. « Il va sans dire que c'est du pôle Nord, » répondit Don Gallo. Sir George se mit à rire. Le vicomte ne fit attention à rien. « Don Gallo, » dit Clémentia, « nous demandions tout à l'heure quelle est la chose la plus capable de plaire au cœur de l'homme. À mon avis, tout sentiment de plaisir venant du cœur plutôt que des choses, car le cœur donne le bonheur bien plus qu'il ne le reçoit. « C'est vrai, madame, » reprit le vicomte. Aussi voit-on souvent les choses les plus simples, les plus insignifiantes, plaire à certains hommes, et celles qui devraient faire le plus impression ne produire aucun effet sur d'autres. Cela vient peut-être, dit Sir George, de la délicatesse du goût. Je ne le pense pas, reprit le vicomte. J'ai vu des personnes de très mauvais goût être fort difficiles, d'autres d'un goût exquis être incapables d'apprécier le beau. « C'est une qualité que j'admire, » dit Sir George avec son froid sourire. « Mais quelle est, madame, » ajouta-t-il en s'adressant à Clémentia, « quelle est parmi les choses de la terre celle qui a le bonheur ou le privilège de vous plaire par-dessus tout ?»« Ce sont les fleurs, » répondit Clémentia. « Vous avez des goûts botaniques ?»« Non, monsieur, » répondit-elle avec calme. « Je connais à peine la classification des plantes, mais les fleurs sont la poésie du monde matériel. L'amour des fleurs est peut-être la seule chose que l'esprit novateur et paradoxal de nos jours n'ait pas encore osé vouer au ridicule. Le retour des fleurs dans la nature est l'image du retour de l'espérance dans le cœur de l'homme. Inséparables de la poésie, elles ont toujours inspiré les plus beaux chants. » Je sympathise avec le jeune poète qui les a célébrés avec tant d'amour, sans crainte de s'attirer des critiques amères ou des questions comme celles que vous venez de m'adresser. Et vous, poursuivit-elle en se tournant vers Don Gallo, qu'aimez-vous le plus au monde ? La beauté des femmes, répondit galamment Don Gallo. Je suis tout à fait de l'avis de monsieur, dit le vicomte. Et vous, Sir George, qu'en pensez-vous ? Lui demanda Don Gallo en frottant l'une contre l'autre ses mains rougies par les engelures qu'il avait gagnées en écrivant constamment dans un cabinet sans feu. « N'ai-je pas raison ?» Pour la première fois, tout en respectant comme toujours votre opinion, je ne puis la partager, répondit Sir George, mais je préfère les femmes laides. Pour ne pas avoir de rivaux, demanda Don Gallo avec une prétention marquée à la plaisanterie. Vous ne devez pas les craindre. J'ai trop de confiance dans le mauvais goût des femmes pour craindre les rivaux, Don Gallo. Mais je trouve les femmes laides plus aimables que les jolies femmes. Et vous osez dire une pareille chose en présence de Clémentia, qui est la meilleure réfutation de vos paroles ? S'écria Don Gallo scandalisé. L'exception ne fait pas la règle, monsieur, répondit Sir George. Puis, s'adressant à Clémentia, « Quelle est, madame, votre fleur préférée ?»« La violette, monsieur. »« Pourquoi ?»« Parce que c'était la fleur de prédilection de la personne que j'ai le plus aimée au monde. »« Fernando de Guevara ?» demanda Don Gallo, avec sa bonne foi ordinaire et son habituelle maladresse. « Non, » répondit Clémentia, en rougissant à la pensée qu'elle avait pu aimer quelqu'un plus que son mari. « Fernando n'aimait pas les fleurs, mais celui à qui je dois tout, mon oncle l'abbé, aimait passionnément les violettes. Aussi, leur parfum me rappelle toujours la mémoire de cet homme modeste. Je regrette qu'il n'y en ait pas encore. » Quelques instants après, Don Gallo se leva pour s'en aller. « Comment, vous partez ?» demanda Clémence, étonnée. « Oui, madame, mais tout en m'en allant, je reste. »«
Oui, dans mon souvenir, » répondit Clémence.
Don Gallo se rengorgea. Il n'aurait pas changé dans ce moment son sort pour celui d'un Rothschild, d'un Sénèque, voire même pour celui de chef de son bureau.
« Pauvre homme !» dit Sir George quand il fut parti.
« Excellent homme !» s'écria le vicomte. « Madame, ajouta-t-il, l'amitié dont vous le favorisez honore et votre délicatesse et votre cœur. »
« Bah ! » dit Sir George, « je ne vois dans cette amitié qu'une preuve de la prudence d'une femme jeune et belle. »
« Vous êtes dans l'erreur, milord, » répondit Clémentia. « Je ne choisis pas mes amis par calcul, mais par sympathie. Je ne suis ni assez présomptueuse, ni assez timide pour chercher une sauvegarde dans l'insignifiance des personnes que je reçois dans l'intimité. Vous jugez toujours la société espagnole d'après les sociétés étrangères, Sir George, et vous ne comprenez pas que, dans leur indépendance, les femmes espagnoles savent respecter toutes les convenances sans se soumettre à de ridicules entraves. »
À ce moment, entra Paco Guzman.
« Clémentia, dit-il au bout d'un moment, nous venons d'annoncer à Don Gallo le mariage de Doña Eufrasia avec Don Sylvestre. Il l'a cru, sans soupçonner le moins du monde, la plaisanterie.
« La crédulité prouve souvent la simplicité de cœur, dit Clémentia. Refuser de croire aux assertions d'autrui, c'est supposer la possibilité d'un mensonge, et il est des cœurs dont la loyauté ne peut le comprendre. Je croirais agir contre ma conscience en trompant, même en plaisantant, une personne de bonne foi. »
« Contre la conscience, Clémentia, ce mot est bien grave pour un sujet aussi frivole. »
« Disons alors la délicatesse. »
« La conscience et la délicatesse se touchent, dit le vicomte, car l'une est le conseiller, l'autre est le juge de nos actions. La délicatesse vient de la société et de l'éducation, la conscience de la morale, aussi la première est conventionnelle, la seconde immuable.
« Dites religion au lieu de morale, » s'écria Clémentia. « Que serait la morale sans la religion qui fait sa seule force ? Où la morale aurait-elle puisé ses aspirations, si ce n'est à cette source ? Qui a fait de l'obéissance la première vertu ? Qui a puni la première faute ?
Vous êtes exalté dans vos croyances, dit Sir George.
En doutiez-vous ? Répondit Clémentia étonnée.
Je n'avais pas encore d'opinion formée à cet égard, madame, mais je vous savais femme et espagnole, à ces deux titres, très susceptible d'exaltation et de superstition. De notre côté, vous êtes si éclairé, si... »
Clémentia fit un mouvement d'indignation et d'impatience.
« Mais, madame, s'empressa d'ajouter Sir George, j'ai pour principe de respecter toutes les opinions, toutes les croyances, toutes les convictions. »
« Je ne vous sais aucun gré de respecter les miennes, monsieur, » reprit-elle avec animation. « Et surtout, je ne saurais respecter les vôtres. Si, dans les choses de la terre, chacun est libre dans ses jugements et maître de sa foi, dans les choses du ciel, l'incrédulité, c'est la révolte. »
« J'accepte votre arrêt, malgré sa sévérité, » dit Sir George, avec cette politesse hypocrite à travers laquelle perce l'orgueil et le mépris de l'impiété.
« Il y a plus d'estime réelle dans ma sévérité que dans votre prétendu respect, » dit Clémentia douloureusement blessée.
« Comment cela, madame ?
Vous donnez ce nom de respect à ce qui n'est que de l'indifférence ou du scepticisme. »
« Cependant, reprit Sir George, un de vos auteurs favoris a dit, « Le doute est la plus belle moitié de la conviction. »
« Quand il est vaincu, mais non pas quand il règne. »
Néanmoins, ajouta Clémentia vivement, les erreurs dont mes amis peuvent se rendre coupables ne m'empêchent pas de les aimer.
En entendant Clémentia prononcer cette phrase, dans laquelle perçait, à travers sa contrariété, toute la bonté angélique de son caractère, Sir George sourit avec une douceur infinie, comme il savait quelquefois le faire.
Lisez plutôt, poursuivit Clémentia, un autre auteur français plein d'une foi vive et ardente, comme il s'en trouve encore parfois. Il vous dira, le doute est facile, c'est la faiblesse et l'impuissance. Et encore, tout est plus raisonnable que le doute. Avez-vous lu le dernier roman feuilleton publié par le journal de « demanda Paco Guzman pour couper court à une conversation à laquelle ni lui ni le vicomte n'avaient pris part, l'un par indifférence, l'autre par convenance. « Il ne me plaît pas, répondit Clémentia, il n'est pas moral. Et tout en remerciant l'auteur dont les intentions sont bonnes, je trouve que, dans ces sortes d'ouvrages, la moralité doit être un but comme elle est un devoir. » Mais, s'écria Paco Guzman, le style en est magnifique. C'est possible, mais l'habit ne fait pas le moine. Comment, le style, qui est une des premières qualités de l'écrivain, vous l'appelez un habit, madame? D'abord, qu'entendez-vous par style? Car c'est un mot dont l'expression est bien vague et chacun l'entend à sa façon. Est-ce la manière propre à chaque auteur de s'exprimer? Est-ce la façon correcte et grammaticale de manier la langue?
Le style, pour moi, madame, répondit Sir George, est un composé de dialectique, de syntaxe et de logique.
Ce n'est pas ainsi que le définit le grave et classique dictionnaire. Il l'appelle la forme sous laquelle chacun exprime sa pensée. Ce n'est pas ainsi non plus que le définit un critique d'un beau talent et d'une grande habileté littéraire qui, dans un journal, a dit ceci. En fait de style, l'essentiel pour un écrivain, c'est d'en avoir un propre, spontané, ne se confondant avec aucun autre et vivant de lui-même. Il est certains ouvrages où les règles de la dialectique, de la syntaxe et de la logique sont parfaitement observées, et je parie un bouquet de fleurs, dit Clémentia, contre une livre de bonbons, que vous ne pourriez pourtant en achever la lecture. Qu'en pensez-vous, vicomte?
Je suis de votre avis, madame. Partout, on donne au mot style une acception bien vague. Buffon a dit « le style, c'est l'homme ». Aussi, au lieu de le matérialiser comme un art soumis à des règles, il en fait une inspiration propre à l'homme, comme le chant ou le rossignol. Un excellent critique moderne le définit « la règle du bon goût dans l'art de s'exprimer ». Lamartine dit « la femme n'a pas de style, aussi elle exprime bien toutes ses pensées ». D'où l'on pourrait inférer que si le style est une chose apprise d'après des règles, il n'est cependant pas nécessaire pour bien dire. À mon sens, le style est à l'expression ce que la poésie est à la pensée. Tous deux viennent de l'inspiration, et si l'on est quelquefois poète sans le secours du Parnasse, on peut aussi avoir du style sans le secours de l'Académie.
C'est cela, vicomte, vous exprimez le fond de ma pensée. La versification est là, la poésie, l'inspiration, et quoi qu'en disent nos grands juges, il est des ouvrages fort estimables, malgré leur style lourd et diffus, comme il est aussi des écrivains dont la grâce, l'élégance, l'originalité plaisent, bien que leur style ne soit pas d'une correction irréprochable.
« Avez-vous vu le nouveau drame, Clémentia ?» demanda Paco Guzman.
« Je l'ai seulement lu, et je n'en suis nullement satisfaite. »
« Il est absurde, » opina Sir George.
Oui, parce qu'il n'est pas classique. Sir George est aussi intolérant en fait de littérature que vous, Clémentia, en fait de religion. Pour lui, point de perfection hors du genre classique. Pour vous, point de perfection sans la foi du charbonnier. J'aime les tragédies classiques comme la plus belle expression de l'imitation de l'art grec. N'est-ce pas votre avis, madame ?
« J'aime peu cette école dramatique, » répondit Clémentia. « Ces idées religieuses sans foi, ces passions violentes sans sensibilité, ces héroïsmes sans grandeur, ce langage apprêté et sans naturel, tout cela me déplaît et ces prétendues héroïnes me font l'effet d'Aspasie et de Saphos déguisées en vierges chrétiennes. Rien dans cette pompe déclamatoire ne sait trouver le chemin du cœur. » C'est ma faible opinion de femme, résultat de mes impressions et non d'un examen artistique. C'est un sentiment qui naît en moi comme les sons de la harpe éolienne au gré du vent qui la fait résonner.
Aimez-vous notre littérature, monsieur le vicomte? ajouta Clémentia.
J'apprécie extrêmement l'ancienne littérature espagnole, et j'aime dans la moderne tout ce qui n'est pas une imitation de la nôtre.
Cette imitation passe pourtant pour une marque de bon ton, dit ironiquement Clémentia.
Madame, répondit le vicomte, de même que le meilleur calcul est de se montrer honnête homme, de même le meilleur ton en Espagne serait de se montrer espagnol, car aucune autre nation n'est plus naturellement élégante et polie. Il est dangereux de vouloir imiter, on risque souvent de rester en arrière. On peut imiter tant bien que mal une mode, une industrie, une forme de gouvernement, mais on n'imite pas une nationalité.
La porte s'ouvrit et Don Gallo parut, le visage rayonnant de satisfaction, un énorme bouquet de violettes à la main. Se plaçant ensuite à la troisième position, pliant le haut du corps et arrondissant gracieusement le bras, il présenta les fleurs à Clémentia.
Don Gallo, s'écria Sir George, vous nous ramenez au plus beau jour de la galanterie. Où donc avez-vous découvert ces violettes que j'aurais payées au poids de l'or ?
À Rascavieras, monsieur, où se trouve un jardin qui les donne en abondance, et elles m'ont coûté seulement la peine de les aller chercher, ajouta Don Gallo, qui néanmoins les avait achetées fort cher.
Vous me rendez jaloux, seigneur Pando, dit le vicomte.
C'est une galanterie classique, une galanterie moderne, ajouta Sir George.
Je ne prends point cela pour une galanterie, dit Clémentia, mais bien pour une preuve d'amitié aimable et délicate. Allez si loin et par un temps pareil, n'êtes-vous pas bien fatigué?
J'ai seulement un peu hâté le pas en revenant, afin d'arriver à temps pour vous accompagner chez la marquise. Il est déjà 9h30. Voyez, Paco s'en va.
En effet, celui-ci prenait congé.
Sir Georges et le vicomte ne bougèrent pas. Il y eut un moment de silence, après lequel Clémentia dit à Don Gallo
« Je ne sortirai pas ce soir. »
« Et pourquoi ? » demanda Don Gallo. « Êtes-vous indisposé ?»«
Non, mais il fait trop mauvais temps. Écoutez, gémir le vent. »
Le vicomte se leva, salua sans dire une parole et partit. Don Gallo s'était levé, avait collé son visage aux vitres de la fenêtre et, interceptant la lumière avec ses deux mains, il observait le temps.
« Vous ne voulez pas me permettre de vous tenir compagnie ?» demanda Sir George à Clémentia, revenant à son ton naturel et affectueux.
« Non, monsieur, s'il faut vous le dire, puisque vous ne savez point, comme le vicomte, comprendre mon silence. »
« Je vous remercie, madame, » dit froidement Sir George.
« Cela ne mérite aucun remerciement, monsieur. Les convenances doivent guider les actions d'une femme comme la sympathie diriger ses sentiments.
Comment ne me disiez-vous point tout à l'heure que l'indépendance des Espagnols ne se soumettait jamais à de puériles entraves ?
Oui, monsieur, mais le tact chez une femme consiste à savoir distinguer entre de ridicules entraves et le joug nécessaire du devoir.
Madame, dit Don Gallo de son air le plus galant, la société est superbe, toutes les étoiles brillent au ciel, excepté deux.
Si vous étiez andalou, vous auriez parlé de soleil, lui dit Sir George avec un sérieux moqueur.
Comme il s'espagnolise, ce digne fils de la noble Angleterre, notre bon allié, dit Don Gallo avec satisfaction.
Je ne m'anglaiserai pas aussi facilement à Londres, moi.
Ceci me rappelle, reprit Sir George avec une impassible ironie, l'histoire de ce prince qui voulut un jour changer d'habit avec son domestique. Le valet ne fut pas reconnu sous l'habit du prince, mais le prince le fut sous l'habit du valet, ce qui prouve combien il est plus facile de monter que de descendre.
Et l'on dira que les Anglais ne sont pas fins et spirituels, s'écria Don Gallo sans soupçonner l'ironie. Le vicomte lui-même n'aurait pu rien dire de plus joli et de plus délicat.
Clémentia, si vous ne venez pas, je me retire, avec le regret cependant de quitter si aimable compagnie. Le loto souffre de mon absence.
Je vous l'ai mille fois répété, Sir George, dit Clémentia quand ils furent seuls.
Vous dépensez en pure perte votre mordante ironie. Je suis la seule à souffrir et à être blessée par vos paroles railleuses.
Bonsoir, milord.
Vous me chassez, madame?
Non, mais à cette heure-ci, je sors où ma porte est fermée.
Vous ne voulez pas m'accorder un moment libre des importunités de tous ces gens dont la présence me rend de glace auprès de vous quand je voudrais être à vos pieds comme le plus passionné de vos admirateurs? Vous me haïssez donc, Clémentia.
En voyant à ses pieds cet homme si beau, si distingué, si fier, Clémentia comprit qu'elle l'aimait profondément. Mais elle refoula ses sentiments en elle-même, comme le voyageur arrivé à une rapide descente, couverte de gazon, s'arrête pour mesurer où son élan doit le conduire, ou bien comme le joaillier auquel on présente un bijou vérifie s'il est faux ou vrai.
Sir George, lui dit-elle avec émotion, quels que puissent être les sentiments de mon cœur, ils ne doivent jamais me porter à faire une démarche légère ou imprudente.
C'est un manque de courage, madame, s'écria Sir George, découragé et irrité.
Qualifiez-le comme il vous plaira.
Je n'aime pas les femmes pusillanimes.
Que penseriez-vous si je vous disais, je n'aime pas les hommes audacieux, Sir George?
Vous vous moquez de moi, madame.
C'est plutôt vous, en ce moment, qui le faites à mon égard.
La comparaison n'est pas exacte.
Sont égaux dans le résultat, Sir George, l'épée qui défend, le bouclier qui préserve.
Il est bien fâcheux, Clémentia, qu'avec un esprit aussi supérieur, vous conserviez encore vos préjugés de couvent.
Je ne le regrette pas, monsieur.
Je dois donc partir?
Oui, monsieur, si vous ne voulez pas me priver désormais du plaisir de vous recevoir à mes heures habituelles.
Sir George sortit, vivement mortifié, accusant la pusillanimité de Clémentia, la trouvant indigne d'une femme de caractère, et, de notre côté, il partait, nous ne dirons pas plus passionné, mais plus présomptueux que jamais.
Elle a, se disait-il, des principes d'une vertu simple, modeste, mais inébranlable. Elle ne se laissera jamais entraîner par son cœur, elle ne le livrera jamais à un homme en qui elle ne verra pas un mari.
Vous le savez bien, vicomte, et vous êtes à l'affût du moment de ma retraite. Mais vous ignorez que je suis aimée et que je sais apprécier les femmes. Aussi, mon beau vicomte, celui qui doit se désister, c'est vous.